Dans les semaines qui suivent l'effondrement d'une partie du 19 rue de Tivoli, les habitants de cet immeuble vont avoir la possibilité d'y retourner à de rares occasions pour récupérer quelques affaires. Et entre la création d'une association, le collectif Tivoli 9 avril 2023, dans lequel certains vont s'investir, le relogement plus ou moins compliqué de chacun, mais aussi la reconstruction, à la fois matérielle et psychologique, tous vont se questionner sur la place qu'occupe désormais ce drame dans leur quotidien et aussi leur attachement au quartier. Retour à Tivoli, une série documentaire de Maxime Grandbert, épisode 3, le point d'ancrage. Avec les témoignages de Julie, Florent, Alexandre, Sylvie, Florian, Myrtille et Étienne, réalisé entre avril et septembre 2024, un an après l'explosion.
Donc, ce qui se crée, donc effectivement, ça ne fait pas de doute, hein, il y a un collectif qui va se mettre en place, qui va se structurer très rapidement quand même, qui va se structurer en association.
Julie, entresol droite.
Et là, il faut dire qu'il y a de la bonne ressource quand même parmi pas mal de délogés. Bon, il y a vraiment des gens qui vont s'investir vite et bien, je dirais. Mais parmi nous, les premiers vraiment à s'investir comme ça fortement, il va y avoir Étienne, très très moteur, et puis Florent. Qui est, je dirais, la vraie grande gueule de l'immeuble et qui va être un très bon représentant du collectif. Et je pense qu'il va se révéler à lui-même, d'ailleurs, dans ses qualités politiques, enfin, en tout cas, dans cette qualité oratoire qu'il a, qui est assez décisive, enfin, qui va jouer un rôle important.
Moi, voilà, j'ai été très actif, du coup, au collectif, dans l'association depuis le début. La bataille, je l'ai vue s'installer, je l'ai vue s'instaurer, je l'ai vue s'ancrer et je la vois couler.
Florent, premier étage droite.
Et ce que nous disent les assurances, c'est non, on ne pourra pas vous indemniser parce que on ne sait pas qui est responsable. Donc on ne peut pas se permettre de vous donner de l'argent hors d'un cadre en plus légal comme vous le réclamez, parce que si on fait ça, la personne pour qui on va vous avancer, parce que ce serait qu'une avance de frais en fait, hein, en réalité ce serait des provisions quelque part, on ne peut pas vous donner cet argent-là, parce que si jamais il se trouve que nous, on n'est pas l'assurance de la personne qui sera identifiée comme réellement responsable, à qui nous, on devra redemander ces frais-là, cette assurance-là pourra nous dire à ce moment-là, beaucoup plus tard, oui, mais vous avez fait ça dans tel cadre qui n'est pas légal, ou qui n'est pas celui qu'on prévoit en général, donc je refuse de vous rendre là. Donc c'est une question de trésorerie, c'est une question de bascule. Mais la réalité, c'est qu'on demande en fait aux gens qui sont déjà dans la merde, qui sont déjà dans des dépenses complètement incongrues. Les locataires, c'est pas les pires, mon appartement, c'est pas le pire, moi je m'en sors pas si mal, mais il y a des gens qui sont vraiment pas dans la précarité, mais pas loin, à force. Alors que c'est des gens, je veux dire, qui bossent, qui font leur taf, qui ont leur vie de famille, qui paient leurs impôts, facile, les petites familles, comme ce que la société attend qu'ils soient, quoi. On n'a rien à leur dire, ils se retrouvent dans la merde, et les gens de qui ils sont clients chez les assurances leur disent « Bah oui, mais non, on vous remboursera peut-être à hauteur que vous réclamez, mais c'est pas sûr, et peut-être plutôt dans 15 ans. »
La première fois que je suis remonté dans l'appart, c'était tout était chamboulé, rien n'était à sa place, tout avait été retourné. Alors, entre les pillages et les travaux.
Alexandre, troisième étage droite.
Ça aussi, c'est une sensation qui est hyper désagréable. De sentir que bah, ton chez-toi, là, tout a été... tout le monde avait... Enfin, il y a des gens, bah, tout le monde, beaucoup de gens ont eu accès à ton intimité. Même s'il n'y avait pas grand-chose à cacher, tu vois, mais... Enfin, voilà.
Moi, on m'a volé des trucs, mais je pense que comme j'avais fermé la porte, j'ai pas été pillé. Vraiment, les autres, il y a des appartements qui ont été complètement retournés avec énormément de choses qui sont parties. Moi, au niveau des vols, ça s'est resté assez bas. On m'a pas pris mon ordinateur, on m'a pas pris des trucs de grosse valeur. Moi, la personne qui a volé les trucs chez moi, c'est pas une personne qui était dans le besoin.
J'ai vraiment eu l'impression qu'on... J'avais la tête sous l'eau et qu'on m'enfonçait encore plus. Enfin, ça, c'est une image un peu bateau, mais surtout qu'on n'est pas des gens riches, quoi. Enfin, tu vois, j'ai encore à la limite sur quelque chose de politique, tu vois, de Robin des Bois qui va voler les riches, machin. Mais enfin, franchement, on est tous des gens de la moyenne, quoi. Enfin, plutôt de la moyenne. Enfin, ça dépend des gens, mais voilà, une classe moyenne. On n'est pas riche. Donc, ça m'énerve d'autant plus que j'ai cette fibre sociale et tu vois, bon, merde, quoi.
Et après, ben écoute, après, porter plainte.
Sylvie, quatrième étage gauche.
à la police qui n'a pas voulu prendre en compte la perte des bijoux parce qu'il fallait des photos, fallait peser, fallait le poids des trucs. Je me suis dit, mais c'est des bijoux de ma grand-mère, de mes parents. Comment... Oui, mais il faut des photos. Et bon, enfin, l'administration, l'administratif, ça m'a saoulé. Voilà, quoi.
Et moi, j'avais fait une croix sur tout, mais je m'étais dit, ça m'arrangerait quand même de récupérer mon téléphone portable.
Florian, premier étage, gauche.
Peut-être l'ordinateur portable, deux, trois trucs comme ça, ce qui me permettait aussi de pouvoir réaccéder à ma boîte mail, parce qu'avec tous les trucs de double authentification, souvent, des fois, pour accéder à cette adresse mail depuis le nouvel appareil, il faut recevoir un code qu'on reçoit sur le téléphone portable, mais quand on n'a plus le téléphone portable, ça ne marche pas. Du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien peut-être récupérer ça, deux, trois trucs, peut-être des objets, des objets, je sais pas, à valeur sentimentale qu'il y avait peut-être dans la chambre. Donc ce mec qui nous propose ça gentiment, on le retrouve un jour, et lui monte dans l'immeuble, et je lui avais donné quelques indications sur, le portable doit être, par exemple, il doit être au pied du lit. Et ça, c'était vraiment dans les jours qu'on subit l'explosion. Donc, il y avait encore, mis à part les ouvriers, enfin, il n'y avait personne qui était rentré. Donc, les choses n'avaient en principe pas bougé de passe entre le moment de l'explosion et cette date-là. C'est là qu'on s'est rendu compte que lui trouvait, enfin, il a retrouvé mon sac dans lequel il y avait tout sauf l'ordinateur portable. Il y avait chez ma voisine, il y avait une commode dans laquelle il y avait ses bijoux, il y avait tout sauf les bijoux, donc il y a eu des vols. Quand j'ai appris ça, j'étais là, bon, c'est vraiment une pratique de... Enfin, il y a vraiment des gars, ils sont... Je sais pas comment dire, mais il y a vraiment des charognards, quoi. Mais après, comme j'avais déjà fait une croix sur tout, ça m'a pas non plus...
En fait, moi, j'étais là. De toute façon, les gens, ils pensaient que l'immeuble, il allait s'effondrer. Ils ont pris des trucs. Enfin, franchement, j'avais du mal à leur vouloir.
Myrtille, troisième étage, gauche.
Après, on ne sait pas qui l'a volé. Est-ce que c'est des ouvriers sur le chantier, des gens de la sécu, des gens qui sont rentrés? Parce qu'en vrai, c'était quand même très fatigué. Enfin, c'est quand même pas très difficile de rentrer dans le périmètre, même s'il était sécurisé par un pauvre agent de sécurité qui passe la nuit dans sa truc. Enfin, il y a des gens, ils étaient hyper énervés contre les agents de la sécurité. Genre, ils ont mal fait leur travail ou je sais pas quoi. Franchement, j'aimerais bien les voir travailler pour le salaire d'un agent de sécurité, passer la nuit dans un box, voilà. Franchement, moi, de toute façon, j'avais laissé tomber, et donc je pense que j'étais moins énervée, et j'ai l'impression aussi, mais peut-être que ça, c'est pas totalement vrai, mais qu'aussi, on a réagi quand même assez différemment à la question des affaires, entre le côté où ils avaient pas perdu les affaires et le côté où on avait perdu des affaires.
Et en fait, c'était assez dur, parce que je me suis rendu compte qu'au-delà du côté matérialiste à proprement parler, juste de... pas consumériste non plus, mais d'avoir des choses, c'est pas le temps de choses de les avoir, c'était le plus de ce... C'était ce yo-yo qui était horrible, en fait, vraiment. C'était ce truc de vous pouvez récupérer, vous pouvez pas, vous pouvez récupérer, vous pouvez pas. Et on a eu des petites fenêtres de tir pour récupérer des affaires. Enfin, en réalité, on en a eu qu'une, mais on a eu trois moments, on a eu trois passages où on avait le droit de passer chez nous, où on a essayé de forcer pour pouvoir récupérer des trucs... Bon, je vais pas mentir, moi, la première fois que je suis monté à l'étage dans ma copine, on m'a dit, t'as 45 minutes avec l'expert d'assurance, je lui ai dit bonjour, au revoir. Il a pas fait son travail d'ailleurs, puisque je l'ai pas surveillé, mais par contre, j'ai récupéré le maximum de ce qui était important pour moi. Et en l'espace d'une heure, j'ai porté des meubles que je pensais pas être capable de porter tout seul, déjà, pour ceux qui passaient entre les étés, parce que bon, nos appartements sont des forêts d'été de renforcement, hein. Donc il y a des trucs, enfin, on sort pas un canapé ou une machine à laver, ça ne passe pas, c'est pas possible. Mais j'avais des petites tables basses, des trucs comme ça, tout ce que j'ai pu récupérer, genre un meuble un peu haut mais assez étroit d'époque qui était à mes grands-parents que j'ai dû transporter. J'ai essayé de récupérer tout ce qui était au fur et à mesure le plus affectif pour moi, et la deuxième fois j'ai fait la même chose, on n'avait pas le droit. C'était assez marrant d'ailleurs, parce que la première fois, quand il commençait à y avoir littéralement un tas d'objets, en fait, à moi en bas, il y avait des flics la première fois de la municipale, et qui savaient qu'on était censé être là pour être accompagné par nos experts d'assurance. Ils étaient là, par contre, vous n'êtes pas censé être en train de déménager. Je les ai regardés avec un grand sourire, j'étais là, vous allez vraiment m'en empêcher? Il était là, bon, allez, j'ai rien vu, parce que, en fait, les gens finissent par comprendre, en fait. Il y a quand même un truc un peu humain qui se passe aussi de... Bon, il est en train de se tuer à la santé, à respirer de la merde à l'intérieur de son truc, mais on n'a rien vu, parce que, faut quand même admettre que, genre, ils ont le droit, on comprend.
Moi, je voulais changer. Je voulais déménager, je voulais que ça évolue, je voulais qu'il se passe des choses différentes dans ma vie.
Étienne, quatrième étage, droite.
Donc, en fait, ça a été ensemble. Moi, je faisais beaucoup la fête. D'un seul coup, faire la fête, ça n'avait pas de sens pour moi parce que j'avais d'autres préoccupations. Donc, en fait, bah, mes amis de la fête, forcément, je les ai moins vus. Ça s'est fait tout seul, en fait. C'est comme si j'avais déjà déménagé en ayant cet événement-là. Quand tu pars d'une ville, tu sais que tu vas garder quelques potes, mais pas tout le monde. C'est pas possible. Donc là, bah, ça s'est fait naturellement. J'ai changé de vie parce qu'elle s'est imposée différemment. J'étais complètement largué, j'ai pris des cachetons. Enfin, j'étais pas trop là. Dès que je pouvais partir, je suis parti. Donc je me suis éloigné naturellement parce qu'il fallait moi aussi que je prenne l'air pour être plus serein.
Et ensuite, la question du relogement, elle ne s'est pas reposée non plus parce que autant le premier mois à Marseille qui a suivi l'explosion, étant pris dans le rythme des démarches administratives, je me posais pas trop la question de Marseille, quoi, si j'y reste ou si j'y reste pas. Mais de toute façon, très vite, après d'un mois, il y avait vraiment un moment où j'en pouvais plus, quoi. Il fallait que je parte d'ici. Ça commençait à devenir trop. C'était trop. C'était un peu étouffant, quoi. Donc, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, j'avais un peu ce truc-là où j'avais des fois, notamment, je me rappelle, j'étais parti à voir mon père et ma tante. Ma tante qui habite dans la campagne au nord de Montpellier, j'étais parti les voir un week-end et en revenant à Marseille, je sors du train et au moment où je pose le pied sur le quai de Saint-Charles, quoi, j'avais tout le bas du dos bloqué, des maux d'estomac. C'est une réaction psychosomatique où j'étais vraiment bloqué, quoi. J'avais un mal de chien, j'arrivais pas à dormir. Et ça, je pense que c'était vraiment lié à Marseille, quoi. Le lieu Marseille, quoi. Enfin, et d'autant plus, du coup, le lieu. Je pense qu'il y avait un peu ce côté. Cet espace-là, ouais, pouvait provoquer des choses assez désagréables.
Nous, au 19, on va jouir d'une situation un peu particulière, effectivement, puisqu'il y a eu donc un arrêté de péril. Enfin, je ne sais plus, ça s'appelle plus arrêté de péril, mais c'est à peu près ça. Il est du devoir du propriétaire de reloger son locataire à l'identique. Voilà. Et dans cet intervalle où il ne peut plus lui assurer la jouissance en fait de son bail plein et entier, le propriétaire est astreint à payer, à reloger donc son locataire, ce qui revient pour nous justement à ce qu'il nous reloge dans le quartier, à peu près dans les mêmes conditions, dans des conditions équivalentes, et qui prennent en charge notre loyer. Et c'est vrai qu'un des trucs aussi entre nous, c'est que on a tous été donc relogés plus ou moins dans le quartier, et que donc on reste voisins les uns des autres. Donc on n'est plus dans le même immeuble, mais on est à proximité. Et à vrai dire, c'est une proximité que j'aimerais conserver.
Quand ça a explosé, je me suis dit, bon, maintenant j'ai plus rien. Il était même question que l'immeuble s'effondre et qu'on fasse effondrer l'immeuble. Donc voilà, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Je suis dans une situation sociale relativement précaire, j'ai pas un salaire élevé, j'ai pas vraiment beaucoup d'économies, donc comment je vais pouvoir me remeubler, me réintégrer, Et donc l'idée c'était au départ de me dire, bon, en fait je vais acheter un camion, avec l'argent du loyer là que je vais mettre de côté pendant 2-3 ans, je vais acheter un camion et je vais partir en camion. Mais en fait ça me semble difficile à réaliser, je sais pas, je suis un peu... Donc peut-être que je vais retourner au 19 Tivoli quand les travaux sont terminés. J'ai pas d'angoisse particulière à y retourner. Bon, déjà, j'avais pas beaucoup accumulé, j'avais pas grand-chose comparé à d'autres. Quand je suis allé chez Étienne, j'ai compris pourquoi il faisait tellement fixette sur ses affaires. Il a 24 ans de vie dans son appartement, donc il y a énormément de choses. Moi, j'avais que des trucs de récup, j'avais 2-3 trucs, même pas de valeur, mais plutôt qui avaient une valeur affective et sentimentale. J'en ai récupéré quelques-uns, les autres qui sont dans ma tête. Tu vois, c'est pas... Voilà, donc le rapport aux affaires. Mais c'est vrai que du coup, tu peux quand même tout perdre d'un coup, quoi. C'est assez... je me suis retrouvé dans la rue en sandales... c'était vraiment... c'est comme ça, alors.
Donc moi, j'avais pris la décision de ne pas me le reloger de suite, parce que j'étais chez ma sœur et que j'avais... Mon moral n'était pas à rechercher un truc de suite. J'avais pas envie. J'avais surtout pas envie. Et après, il a fallu que j'aille voir un psy, quand même, parce que au départ j'étais tellement surexcité que je pensais que j'étais en pleine forme, comme j'avais rien eu à part être étouffé par les gravats et tout ça, la poussière, j'avais rien, pas une seule égratignure. Donc moi, j'étais, l'adrénaline m'a porté pendant plus de 10 jours, tu vois. Et j'ai dit, bon, je vais aller retravailler et tout. Et c'est le psychiatre qui m'a dit, non, c'était un spécialiste des catastrophes, des grosses catastrophes. Il m'a dit, non, mais votre cerveau ne va pas réagir, vous allez avoir le contre-coup. Il m'a décrit les contre-coups que j'allais avoir, et en effet, 15 jours après, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, j'avais des angoisses, j'avais des... Le bruit me gênait, la foule, le stress des gens, j'arrivais pas à accepter qu'on crie à côté de moi, ou qu'on on s'énerve. Ça me gênait, hein, beaucoup, même encore un peu maintenant, mais voilà.
Ce qui m'arrive des fois, c'est que, peut-être un peu moins souvent, mais des fois, au moment du coucher, quand je suis tout seul, c'est quand, souvent après une journée de travail, ou après une journée, souvent le soir, c'est le moment où on relâche un peu la tension, où on est un peu plus vulnérable à tout un tas de pensées, à un peu des états d'âme, ou des états comme ça, des états physiques. Et des fois, comme ça, c'est assez particulier comme expérience, mais j'arrive un peu à me replonger dans une espèce de... d'état d'esprit ou ouais, d'état d'âme où j'arrive à presque à retoucher du doigt le moment de l'explosion, quoi. Enfin, où j'arrive un peu à ressentir de manière, alors c'est sûr très partielle, hein, pas jamais entièrement, mais un peu l'effroi que ça a provoqué, quoi. Mais c'est pour le coup, ce serait presque, je le fais presque comme un exercice pour un peu réfléchir à ça, quoi. Pour
il y a comme un truc un peu dissociatif, tu vois, tu je sais pas comment l'exprimer. Tu vis une catastrophe, un truc vachement grave, et en fait, moi, je me suis senti tout le temps dissocié par rapport à la gravité du truc. Peut-être qu'à cause du somnifère, je sais pas. Mais j'étais toujours un peu en distance. La première semaine, j'ai beaucoup ri, mais de façon très hystérique, et c'était pas un rire habituel, c'est pas mon rire. J'ai un rire un peu, je sais pas, nerveux, hystérique, qui était pas. Pas sympathique, tu vois. Donc, mais du coup, j'étais là, oh là là, quelle catastrophe, j'ai jamais été effondré. Peut-être aussi que comme j'ai déjà été SDF, alors j'ai jamais été à la rue, hein, mais pendant presque un an, j'étais SDF, quoi, sans domicile fixe, donc j'allais à gauche, à droite. Donc peut-être que d'avoir vécu ça, j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu ce truc où j'étais vraiment très en distance. Et ça continue, j'ai l'impression que ça continue un peu d'ailleurs. Toujours dans ce truc de je sais pas si j'ai bien ou si j'ai pas bien. J'arrive pas à dire. Genre, tu peux pas comprendre. Et c'est vrai que de toute façon, c'est un travail de deuil, de toute façon. Enfin, voilà, il faut faire le deuil de. Voilà. Et en même temps, une image qui me plaisait bien, c'était un peu comme un Big Bang aussi. C'était le début de quelque chose. Donc, c'est comme si, hop, ce Big Bang, et qu'on était de la matière en projection dans l'espace, en fait. C'est un peu cette image-là aussi qui m'est venue. Surtout au tout début. Là, maintenant, un peu moins, parce que je me rends compte que le boulot, machin, le quotidien, en fait, finalement, la vie reprend sa routine, même si il y a une cassure, mais reprend sa routine. Donc, c'est la sensation de Big Bang, elle est moins présente. Mais au début, oui, en plus, moi, à l'époque, je ne travaillais pas. Enfin, je me disais, voilà, j'ai 60 ans, je ne travaille pas, je suis au chômage, je n'ai plus d'appart. c'est waouh. Comment je vais faire, enfin, voilà.
Je dirais que mon talon d'Achille, en quelque sorte, et peut-être la part d'angoisse que j'aurais pu avoir, c'était pour ma mère, en fait, qui, elle, a été finalement impactée beaucoup plus que moi, y compris, je pense, a eu un choc nerveux important. D'abord, c'est pris l'impact beaucoup plus que moi, puisqu'elle était dans la pièce la plus exposée, en fait. Et c'est avéré depuis, hein, puisque le mur a été détruit, enfin, donc c'était vraiment... Il y a eu un fort impact, quand même, qu'elle a engrangé plus que moi, et donc a été quand même suivi de conséquences de troubles d'équilibre, de choses quand même importantes qui se sont remis en place en grande partie, donc et dont elle estime, elle, qu'elles sont que ça va, enfin voilà. Donc je pense que si ça n'avait pas été le cas, voilà, la situation aurait été quand même, je l'aurais vécu bien autrement, en fait, en quelque sorte.
au début, je me suis dit, ouais, ça va être une super énergie, je vais en profiter pour changer tout ce qui va perdre dans ma vie depuis 60 ans. Tu vois. Et puis finalement, tu es rattrapé par un quotidien, tu es rattrapé par tes névroses, tu es rattrapé par la vie de tous les jours. Je sais pas.
Ça m'a permis de me rendre compte, cette explosion. Je me suis dit, parce qu'on faisait des blagues, j'ai tout perdu, là, là, là. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est j'ai tout perdu, entre guillemets, parce que c'est pas vrai. Mais, j'ai pas perdu la vie, effectivement, bon, voilà. Et surtout, j'ai vu à quel point j'avais des gens autour de moi que j'estimais. En fait, on peut difficilement t'enlever beaucoup de choses quand t'as tous tes amis autour de toi, et voilà. Donc, ça, c'était quand même une réalisation de ça. Donc, j'avais quand même mes amis. J'ai beaucoup dormi chez mes amis, avec mes amis. Elles m'ont fait à manger parce que moi j'ai eu énormément de mal. Même jusqu'à maintenant, je cuisine beaucoup. Je fais que moi-même à manger. Enfin voilà. Et en fait, depuis l'explosion, mais je mange n'importe quoi. J'arrive pas à refaire la cuisine. J'arrive pas à m'occuper de moi. Enfin, je sais pas. Genre, c'est très compliqué. Donc les gens m'ont beaucoup fait à manger. Viens manger chez moi, des trucs du quotidien que j'arrivais pas à prendre en charge et qu'ils ont fait pour moi. Donc ça m'a aidé. Mais je pense quand même que sans les gens du 19. Enfin, je suis pas sûre que j'aurais si bien traversé cette période malgré tout, parce que les gens, ils ne peuvent faire que jusqu'à... On peut pas tout leur demander non plus, et c'est pas leur place, et ils peuvent pas tout comprendre non plus, notamment quand ils sont pas vraiment dans le truc. Et donc, j'avoue que j'ai dit au début que j'avais peur que cet événement, quand même, ça me mette très en difficulté sur le niveau psychologique, quoi. Et je pense que ça aurait pu le faire. Enfin, sans ce qui s'est passé avec les gens du 19, j'aurais pu peut-être craquer ou retourner, perdre pied. Et c'est pas arrivé. Et je pense que c'est aussi beaucoup grâce à cet ancrage. Et j'aurais pas eu cet ancrage. En fait, ça m'a permis quand même de rester quelque part sur la Terre, là, et pas de disparaître dans un truc, pas de tomber dans le trou de l'explosion, quoi.
Parce que c'est vrai qu'après... Il y a quelque chose de très fort qui nous relie, donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez presque acquis. Et en même temps, bon, on est des gens à découvrir. Hein. Enfin, je veux dire, une amitié se nourrit évidemment du temps, de la fréquentation des uns et des autres, et que ça, il y a toujours ce moment de passage d'une situation. Ce moment ensemble, c'était... Je pense que pour moi, évidemment, le délitement, parce qu'évidemment, il y a un délitement nécessaire. La réalité nous rattrape. Et quelque part... Je crois que ce moment de d'être ensemble comme ça, très fusionnel, ça a duré maximum 2 mois. C'est à la fois très très intense et en même temps, à un moment donné, chacun a ses obligations. L'un reprend le travail, l'autre s'enfuit de Marseille parce que voilà, je sais pas, il a une love story ailleurs. Enfin bon, donc du coup, nécessairement, je dirais évidemment, cette fusion se délite. Ah ben, il y avait quelque part une sensation de paradis perdu. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu fort, mais quand même, il y a quelque chose de... encore une fois, il y a eu quelque chose, une espèce d'acmé existentiel comme ça qui, à un moment donné, oui, se défait parce que on n'est plus prisonnier de l'événement et qu'à un moment donné, la construction de sa vie continue et que voilà, chacun construit la sienne et que les relations reprennent quelque part une sociabilité plus normal, plus banal, est-ce que t'es libre? Tu n'es pas libre, oh, c'est pas grave. Voilà, donc on n'est plus du tout dans cette évidence, voilà, dans cette transparence, cette évidence, dans ce besoin qui n'a pas besoin de se dire. Et, donc ça, c'est quelque chose, oui, que moi j'ai vécu avec qui a été plus pénible, je pense, pas une pénibilité douloureuse, mais quelque chose de plus lancinant, qui fait que c'est l'abandon de quelque chose aussi.
Donc ce quartier s'appelle le Cama, c'est un quartier qui est au centre-ville de Marseille, et en fait je le vis un peu comme une continuation du quartier de la Plaine, qui est un quartier depuis toujours plutôt animé, les gens sortent beaucoup, il y a beaucoup de bars. Alors autant la Plaine, avant la boboisation, il y avait une espèce de côté rebelle qui était présent, le Cama c'est un peu plus villageois, on est dans les pentes de la colline, en fait, on descend de la colline. Et ça s'est beaucoup, beaucoup mobilisé les dernières années. Il y a en même temps un cœur villageois, il y a des vieux Marseillais qui sont là depuis longtemps, et toute une nouvelle population qui arrive. C'est un quartier qui est vachement agréable à vivre. Il est calme, il n'y a pas de tension. Les gens se connaissent sur les terrasses. Il y a quand même un peu côté populaire qui est resté. En tout cas, si c'est pas populaire, en tout cas, de vie de quartier qui continue à exister.
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un des quartiers aujourd'hui le plus en cours de gentrification, justement, parce qu'il a l'avantage d'être très agréable, assez calme, avec des coins très jolis d'ailleurs, et juste à côté, évidemment, du Marseille, avec les bars sympas qui bougent, etc. Donc, et il est très central. Donc évidemment, c'est une belle prise maintenant dans Marseille, et ça a été d'ailleurs... D'ailleurs, un des soucis c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter aussi. Alors déjà, et qu'ont expérimenté, je pense, douloureusement ceux qui ont été délogés et qui habitaient donc depuis longtemps pourtant dans leurs appartements, c'est que en fait, en se gentrifiant, évidemment, c'est un quartier qui devient un des plus prisés sur Marseille et qui coûte évidemment de plus en plus cher et beaucoup plus cher qu'il n'a coûté auparavant. Et donc les immeubles se font très très rares et donc ça a été aussi un des grosses tensions en fait qui ont succédé immédiatement à l'explosion et à la situation de délogement en fait de pas mal de gens suite à l'explosion du 9 avril 2023. Je pense que cet événement, cette explosion a des fois sabré l'assise de beaucoup de gens, parmi nous, de beaucoup dans la vie. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'eux qui a été le tapis retiré sous leurs pieds. Enfin, une assise comme ça qui leur est ôtée avec toute la brutalité de cette explosion. Alors que moi, j'ai presque et j'en parlais d'autant plus avec quelqu'un qui me parlait du quartier justement, de son attachement au quartier, du fait que ce serait plus jamais pareil, enfin que tout ce qui était si chaleureux, si près des habitudes, des machins, d'un coup, n'existait plus. En tout cas, a été endommagé comme ça et a il resté longtemps. Et à l'inverse, justement, moi, je lui disais que, au contraire, moi, précisément parce que je n'avais pas cette assise, précisément, cette explosion m'en avait donné une dans le quartier.
Revenir à la rue Tivoli, j'ai envie. Et certains veulent revenir et d'autres pas, mais moi j'ai envie de revenir et de voir, voilà. Pour l'instant c'est mon projet, hein. Après la vie, tu sais, elle peut encore changer. Pour moi, le fait d'être sorti rapidement sans genre dire au revoir à mon appart, pour moi, c'est un crève-cœur, quoi. Et d'être déraciné en 5 secondes, ça me perturbe. Mais j'ai envie d'y retourner et de voir qu'est-ce qui est devenu mon appartement dans le futur, hein, puisque c'est en reconstruction. Mais de voir quand même, et de remonter au quatrième. Et de voir si je suis aussi bien dans mon appartement qu'avant. Après, ce qui va arriver de chacun du 19, on ne sait pas. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va se rapprocher, quoi. Ou on essaiera de se rapprocher. En tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on se rapproche, quoi. Et qu'on se voie de temps en temps. Hein. Après les affinités, chacun, tu ne peux pas te voir, chacun a sa vie, mais c'est sympa de se voir, quoi. De se voir, de se parler. C'est mes nouveaux amis, hein. Donc voilà, quoi. C'est comme ça que je vois la chose.
C'était Le Point d'Ancrage, le troisième épisode de Retour à Tivoli. Une série documentaire de Maxime Grandbert. Merci aux habitants et habitantes du 19 rue de Tivoli, Julie, Florian, Alexandre, Sylvie, Florent, Myrtille et Étienne.